Bonjour à toutes et à tous. L'automne est là, les feuilles des arbres rougissent, les joues des antivax aussi, parce que démarrent par la même occasion les campagnes de vaccination. Donc pour tenter d'endiguer la énième vague de Covid, je sais plus au juste où on en est, sixième, septième, huitième.
Huitième pour chez nous.
Huitième pour chez nous. Merci Pierre-Yves. Le lancement a eu lieu le 3 octobre et pour la grippe, ce sera, d'après mes renseignements, le 18 sur le territoire métropolitain. Autant donc s'informer avant de retomber dans les sempiternels débats pour ou contre celui-ci, mais pas celui-là, les chercheurs payés par Big Pharma ou à la solde de l'État soupçonnés de tous les vices. Un livre qui sort après-demain, le 6, nous donne l'occasion d'un coup d'œil dans le rétro qui, paradoxalement, nous permet également d'analyser la situation d'aujourd'hui. Ce roman, il s'agit bien de littérature, mais aussi de science, s'intitule « Les Enragés ». Il a été publié par les éditions du Globe et pour être précis, il a été écrit par Paola Nicolò et son autrice a la gentillesse d'être en ligne avec nous depuis New York afin de nous éclairer. Bonjour Paola.
Bonjour Patrick, merci de me recevoir.
Ça, c'est un vrai plaisir. Donc, on vous présente un tout petit peu. Vous êtes diplômée de l'École normale supérieure. Vous êtes française, hein?
Oui.
Docteur en philosophie. Vous êtes titulaire d'un master en bioéthique. Et ce cursus vous a permis d'occuper le poste de bioéthiciste au Northwest Hospital de New York. Qu'est-ce qu'une bioéthiciste?
Alors, c'est un job qui existe pas vraiment encore en France. Enfin, il y a des comités, bien entendu, de bioéthique. Mais aux États-Unis, il y a des bioéthicistes qui sont assignés à des hôpitaux. En tout cas, les hôpitaux qui ont le plus de ressources et de moyens. Et ce sont des gens qui sont chargés de s'occuper quand il y a des dilemmes moraux entre les patients, les familles et les médecins. Et donc, qui aident, en fait, les docteurs à naviguer avec ces questions, ainsi que les familles. Et très souvent, le bioéthiciste est un petit peu joue le rôle de l'avocat de la famille ou de l'avocat du patient, et en tout cas l'intermédiaire.
Ah, c'est un beau métier, ça. Et donc, vous trouvez le temps d'être autrice et vous venez de sortir un roman qui s'appelle Les Enragés. Et il débute en 1886, justement, avec une famille endeuillée. La mort d'un jeune garçon, d'un jeune adolescent de 12 ans qui s'appelle Jules Rouillet. Et ce gamin n'avait pas de pathologie évidente, sauf si ce n'est qu'il avait été mordu par un chien et traité par Pasteur. Et ce décès ne va pas passer inaperçu, ça va déclencher une polémique incroyable.
Alors oui, tout à fait. Donc on a ce jeune garçon, Jules Rouillet, qui est mordu par un chien fou furieux rue des Filles du Calvaire. La mère se rend immédiatement au laboratoire Pasteur, parce qu'on dit dans tout Paris qu'il a mis au point un antirabique, un vaccin contre la rage. Tous les mordus viennent des quatre coins de France pour recevoir.
Il a déjà traité Joseph Meister.
Exactement, on est un ou deux ans après ça. Donc tous les mordus viennent des quatre coins de France et la stratégie, c'est en fait d'inoculer le vaccin avant que le virus de la rage ait le temps de se propager dans le système nerveux. Donc prendre de vitesse finalement la morsure. Donc elle se rend au laboratoire Pasteur et ensuite Jules Rouillet, son fils, meurt quelques temps après. Et la question, évidemment, qui est l'enquête du roman, quelles sont les causes du décès?
Est-ce que c'est vraiment un vaccin? En tant que profane, on peut se poser la question. Parce que pour nous, un vaccin, on y va, on se fait piquer. Éventuellement, il y a un rappel, deux rappels. Et puis voilà, on crée des anticorps, etc. Sauf qu'à cette époque-là, les anticorps n'étaient pas connus. Mais là, le traitement préconisé par Pasteur, c'est quelque chose d'énorme. C'est trois injections par jour, quatre injections par jour pendant des semaines. Est-ce que ça correspond vraiment à la définition d'un vaccin?
Alors ça, comment dire, c'est une question un peu difficile à répondre, au sens où, si vous voulez, le principe, je pense, et le principe en effet de la vaccination, ça consiste à, en fait, à injecter, inoculer un virus atténué pour que l'organisme ait la force d'y répondre. Donc ça correspond bien au principe de l'immunisation dans la droite ligne des travaux de Jenner, par exemple, contre la variole. Maintenant, en effet, je pense qu'il y a aussi une forme de prudence à l'époque des laboratoires Pasteur qui injectent des émulsions de moelle arabique très faible, très atténué, à la virulence très atténuée, comme ils disent. Je pense qu'on tâtonne encore sur comment marche un vaccin. Donc, en effet, c'est pas exactement le même fonctionnement que nos vaccins, en effet, d'aujourd'hui. Ouais.
Ouais, il y a un problème dont va se servir, parce que comme Sherlock Holmes a son Moriarty, Louis Pasteur, il a son adversaire acharné, qui est le docteur Michel Peter. Et déjà, il lui en veut. Enfin, il le méprise cordialement parce que Louis Pasteur n'est pas médecin, il est chimiste, il est chimiâtre, selon Peter, qui le méprise malheureusement. Et donc, ce sont ses assistants qui procèdent aux injections. Et ce médecin-là, Michel Peter, est absolument persuadé que ça n'existe pas, la transmission, que les germes, tout ça, ce sont des inventions. Et donc, la théorie du vaccin ne fonctionne que s'il y a un germe pathogène. S'il n'y a pas de germe, ça ne marche pas.
Tout à fait, tout à fait. Il croit pas à la théorie des microbes. Comment dire, c'est Bruno Latour qui dit que c'est Pasteur qui a fait rentrer le microbe au laboratoire. Et d'ailleurs, donc Michel Peter, il parle de son expérience clinique. Il dit, je vais tous les jours à l'hôpital depuis plus de 25 ans. Je n'ai jamais contracté le choléra ou la diphtérie. Donc vous voyez bien que cette théorie des microbes est absolument absurde. Et donc, il a une théorie alternative qui s'appelle la théorie de la prédisposition morbide. J'aime beaucoup l'expression. Ouais. Et la prédisposition morbide, c'est voilà cette idée que l'organisme serait ou non réfractaire, prédisposé à la maladie. Mais en tous les cas, voilà, il appelle les pasteuriens les hypochondriaques. Dans le roman, je m'amuse à lui faire dire et pourquoi pas un microbe du rhumatisme ou de la goutte. Ils nous ont mis des microbes partout. Donc oui, oui.
Il y a une notion que vous développez, enfin, que vous expliquez dans le roman, c'est l'idiosyncrasie.
Oui. Oui, alors c'est il a une très belle expression, alors l'idiosyncrasie des éléments morbides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûre que je sache moi-même exactement ce que ça veut dire. L'idiosyncrasie des éléments morbides, c'est cette idée qu'en fait il y a pas de maladie. Les taxonomies des maladies et c'est une abstraction. Il n'y a que des malades, il n'y a que de l'individuel, il n'y a que de science du particulier. Donc l'idiosyncrasie des éléments morbides, c'est voilà la forme particulière que va prendre la maladie et la morbidité dans ce corps-là. Alors évidemment, il y a quelque chose de, comment dire, qui est très contre-intuitif, parce que s'il n'y a que de science du particulier, comment on arrive à obtenir des connaissances généralisables? Et Pasteur est en effet le grand adversaire de Michel Peter, précisément parce qu'il cherche à faire de la médecine expérimentale. Donc, c'est pas qu'il reconnaît pas les bienfaits de la médecine au chevet des malades, mais il abstrait le microbe du laboratoire pour les cultiver en boîte de pétri. Il les dompte. Hein, il y a des adversaires de Pasteur qui s'amusent à dire qu'ils domestiquent ces animaux de laboratoire en boîte de pétri. L'idiosyncrasie des éléments morbides, voilà, ça réfère à cette idée-là, qu'il n'y a que l'individu, il n'y a que le malade.
Ouais, et Jules Rouillet, il tombe à pic. Mais alors vraiment, pour les adversaires de Pasteur, il tombe parce que Pasteur est adulé à l'époque par toute une partie de la population. Il a des financements, il a de quoi créer son fameux institut Pasteur. Et là, tous les adversaires vont s'en donner à cœur joie. À commencer par les anti-vivisections, parce que effectivement, Pasteur fait des études sur les chiens. On lui reproche de ne pas avoir... Alors, est-ce qu'à cette époque, il existait des protocoles ? Je ne sais pas, mais de faire directement des essais sur les humains, alors qu'en fait, il a quand même fait quelques essais sur l'animal avant. Donc, on lui reproche tout et n'importe quoi, et tout le monde lui tombe dessus.
Oui, alors il a beaucoup d'adversaires, comme vous mentionnez, donc la lutte de défense contre les animaux, les anti-vaccinateurs. Alors en effet, c'est vrai que c'est une époque, c'est une zone grise en fait. On est dans une période de défrichement où il n'y a pas du tout de protocole qui encadre les essais cliniques. Donc on est vraiment à la pointe de l'innovation et donc on tâtonne. Donc Pasteur en effet fait un certain nom. Il a fait pendant plusieurs années des essais sur les chiens et les lapins, notamment ce qui lui a permis d'avoir un virus stabilisé, ce que dans le roman, ça s'appelle la rage de laboratoire, par opposition à la rage des rues. La rage des rues donne des convulsions, tandis que la rage de laboratoire paralyse. Il y a tous ces adversaires qui sont extrêmement présents. J'ai oublié pendant que j'ai oublié le début de la question en réalité.
je repense aussi au cas de Semmelweis. En fait, je les mets un peu sur le même plan. Semmelweis qui a perdu sa carrière, qui a perdu sa vie pratiquement, à convaincre les médecins de se laver les mains entre une autopsie et un accouchement. Oui. Ce qui a sauvé la vie à beaucoup de femmes, mais il l'a fait exclure de l'Académie de médecine. Il a Pasteur, oui. C'est un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'il arrive comme ça, et il n'est pas médecin, donc ça c'est un crime abominable. Et il dérange un ordre établi, un mandarinat. Et là, quand l'affaire Rouillet éclate, par exemple, il y a un changement de pouvoir à la tête de l'Académie de médecine, et ce sont plus des luttes de clans que des luttes scientifiques vraiment étayées.
Oui, alors c'est toujours intéressant, comment dire, de voir comment des conflits intellectuels, évidemment, se surajoutent à ça des conflits psychologiques et des conflits de clans, comme vous le disiez. C'est pas parce qu'on est scientifique et qu'on recherche la vérité qu'on n'est pas avant tout des hommes, et donc qu'on n'est pas animé par d'autres intentions. Et donc, en effet, il y a des clans qui se forment. Donc, il y a les anti-vaccinateurs qui sont relativement puissants à cette période, parce que, comment dire, il y a tout un mouvement contre la vaccination, notamment qui a été rendue obligatoire en Allemagne. Et les anti-vax ont permis de supprimer la vaccination obligatoire contre la variole en Angleterre. Donc, ça, c'est une première victoire. Et donc, ouais, il y a tout ça. Vous parliez, de se laver les mains avant les chirurgies. En effet, ça, ce sont des techniques d'hygiène qui seront aussi popularisées par le pasteurisme. C'est parfois difficile de faire changer les habitudes des gens. Donc c'est là que je disais qu'il y a, à la fois, on recherche la vérité, on est médecin, mais on est aussi un individu qui n'aime pas beaucoup se voir... Remis en cause, changer des habitudes. Il y a toujours un inconfort dans ces premiers moments. Et donc tout ça, bien sûr, se joue. Et puis même du côté des pasteuriens, on peut pas. Il y a à la fois aussi chez Roux, par exemple. Chez Granchet surtout. C'est Roux qui, à un moment donné, dans le roman, dit, il se demande pourquoi il est revenu, parce qu'au début de l'expérimentation sur la rage, il a refusé de faire partie du premier essai sur le petit Joseph Meister. Et donc, il se demande, pourquoi suis-je revenu ? Est-ce que je suis revenu parce que j'étais convaincu, il est convaincu que la vaccination un jour marchera, mais il ne sait pas encore si on n'est pas allé trop vite pour passer sur l'homme. Et il se demande, est-ce que je ne suis pas revenu pour d'autres motifs, à savoir avoir peur d'être laissé de côté par l'histoire des sciences, ne pas faire partie de cette grande histoire.
Ils sont toujours entre deux chaises un petit peu. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a absolument aucune femme au niveau des scientifiques. Ça c'est clair. Par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu déçu. C'est qu'on sert de celle qui est en tête des anti-vivisectrices. Parce que oui. Non pas parce que ça intéresse les autres médecins, mais simplement parce que bah pour le dire un petit peu vulgairement, elle a une grande gueule et oui. que c'est bien et qu'elle est soutenue par quelqu'un. Et là, ça m'a fait franchement de la peine. Elle est soutenue par Louise Michel.
Oui.
Et ça crée elle crée vraiment véritablement un mouvement populaire.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Bon, comment dire, on le voit à la fin de cette, comment dire, de cette réunion des anti-vaccinateurs. On voit la foule qui crie vive Boulanger je sais plus le deuxième, vive Louise Michel, non. Et oui, en effet, Marie Huot a des connexions. Avec Louise Michel. Bon, encore une fois.
On est 15 ans après, 15 ans après la Commune. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Comment dire, après, je ne connais pas en profondeur quels sont ses rapports exacts. Avec Louise Michel, dans quelle mesure Louise Michel aurait soutenu le mouvement. Je pense que la présence de Louise Michel est plus anecdotique. En fait, à cette ouais. réunion, elle est plus anecdotique quelque chose, mais qu'autre chose. Mais c'est vrai que les journaux, puisqu'en fait cette réunion d'anti-vaccinateurs, je l'ai fait avoir lieu le 15 décembre 1886. Elle a en réalité lieu en juillet, et il y a le temps qui documente ce qui est dit. Et donc j'ai parfois fait des adaptations.
Ah, vous avez le droit, c'est un roman.
Oui, et comment dire, je pense que le journal se délecte à évoquer Louise Michel. Donc là, comment dire, il y a aussi des motifs politiques de la part du rapport journalistique de sa présence.
On va revenir après oui. la petite pause musicale là, pour souffler un petit peu dans la deuxième partie. On va revenir justement sur l'utilisation du pauvre Jules par les médias, les politiques. Enfin, il a servi à tout le monde, ce pauvre garçon.
Oui, merci.
Alors, on va s'écouter System of Down, Science.
Things we all know, fighting off the disease, programming of centuries.
se retrouve de nouveau avec Paola Nicola et son roman Les Enragés, paru aux éditions du Globe, et qui raconte la mésaventure d'un jeune garçon, Jules Rouillet, qui est mort après avoir été vacciné par Louis Pasteur, et la polémique que ça a déclenché. Et donc, on parlait un petit peu des politiques donc Clémenceau, qui sentent le coup, les élections sont proches et il y a moyen de faire tomber le gouvernement sans trop se soucier de vérité scientifique. Ils soutiennent l'un l'autre. On reproche à Pasteur d'avoir été favorable à Napoléon III. C'est quand même pas sans rappeler un petit peu ce qui s'est passé chez nous au moment du Covid, où les politiques disaient un peu de choses près n'importe quoi, montaient du jour, du soir au matin, sans qu'on sache exactement où trouver la vérité. Donc c'est un point commun. Et pourtant, à cette époque-là, là, à un moment ici, on a dit que c'était à cause des réseaux sociaux. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Il y avait un bon coup à jouer, quoi.
Oui, tout à fait. On voit dans la deuxième scène Clémenceau, en effet, qui s'intéresse au cas. À l'époque, c'est un député du Var, c'est une figure montante du Parti radical, et il voit ça comme une possibilité de faire valser un autre ministère. Et puis voilà, Pasteur qui fait, donc on a parlé du fait qu'il était un chimiste qui joue aux apprentis médecins, pour prendre une expression de ses adversaires, et qui fait les louanges du bonapartiste. Du bonapartisme, et ça fait évidemment très mauvaise presse. En effet, ce que j'ai trouvé très intéressant en faisant toutes ces recherches, c'est de m'en rendre compte, vous parliez des réseaux sociaux à l'heure actuelle, et bien comment, oui, comme vous le disiez, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour entrer dans ces polémiques. Il y a un ouvrage qui m'a beaucoup servi dans la rédaction de ce livre, c'est Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, par deux historiens, François Salvadori et Laurent-Henri Vigneault. Et ils expliquent comment, à l'époque, voilà, il y a déjà, une première critique qui est, c'est contre-intuitif de vouloir guérir en inoculant un mal. Et puis, une méfiance à l'égard d'un vaccin qui serait chimique. Et ils disent, tout est bon dans la nature. Les historiens l'appellent, c'est un retour au rousseauisme médical, dans tout est bon dans la nature. Et donc, on le voit dans la réunion avec les anti-vaccinateurs, où on parle de quelqu'un qui aurait mis au point un vaccin végétal à l'essence de Tanaisie. Donc, oui.
Ouais, je rebondis un peu sur votre phrase sur le tout est bon dans la nature, nanani, nanana, c'est très mignon tout ça. Mais par exemple, aux États-Unis, quand il s'est agi de faire un génocide du peuple indien, on a su leur distribuer des couvertures qui étaient ensemencées avec des croûtes de variolique. Donc, oui. L'idée de transmission, l'idée qu'il y avait quand même un moyen de transmettre la maladie sans qu'elle soit idiosyncrasique ou n'importe quoi, elle était déjà présente quand il y avait un intérêt à le faire.
Oui, alors tout est bon dans la nature, c'est évidemment une exagération, c'est cette idée... qu'il y a des remèdes fournis par la nature. Alors on le voit à la fin l'un des derniers chapitres où Michel Peter soigne un diphtérique avec du jus de citron. C'est véridique, c'est ce qu'il faisait pour nettoyer les membranes au fond de la gorge. Donc en effet, vous avez raison de dire que l'argument tout est bon dans la nature ou le retour à la nature, on l'oublie trop souvent, il y a une violence, une cruauté de la nature. La nature, en fait, extermine, la nature laisse mourir. Le recours à l'argument est paradoxal.
Bah, un petit peu, oui, il me semble même un petit peu de mauvaise foi.
Je ne sais pas s'il est de mauvaise foi, parce que je pense qu'il est possible... Je le qualifierais pas forcément de mauvaise foi. Ça, c'est quelque chose que j'avais voulu, que je trouvais très important dans le livre. J'ai pas de jugement par rapport à mes personnages.
Je pensais par rapport aux pauvres Indiens qu'on chopait la variole parce qu'on leur a donné. Et qu'ensuite, on vient de dire, les microbes n'existent pas.
Là, on est dans la mauvaise foi. Oui. Là,
on est bien d'accord.
Oui, bien sûr.
Il y a un très bon passage dans votre livre, c'est quand vous parlez des gens qui sont convaincus justement de l'innocuité, de la nocivité des vaccins, de ceux qui par exemple pour guérir la rage prennent de l'ail en poudre, enfin des trucs abominables, de la poudre de perlimpinpin comme on a vu, l'hydroxychloroquine ou des trucs comme ça. Et il y a un très beau passage où vous dites la fantaisie. La fantaisie convertit davantage que la raison. La fantaisie, c'était une drogue dure. Il y a des sociologues qui sont penchés dessus et qui ont calculé en gros qu'il fallait 6 fois plus de temps pour retirer une idée fausse du cerveau de quelqu'un que pour l'implanter.
Oui. Alors, ce que je voulais faire avec le livre, c'était en fait, au fond, dresser un continuum. Entre qu'est-ce qui départage une doctrine juste, qu'est-ce qui départage l'intuition géniale du charlatanisme. Et c'est toujours compliqué parce que effectivement, rétrospectivement, avec l'histoire des sciences, on sait qui a vaincu, on a parfois ces images d'Épinal du progrès scientifique, comme si tout s'était imposé sans discussion. Et c'était ça aussi que je voulais faire avec ce livre, justement montrer dans les premiers moments un débat où il est difficile de savoir ce qui relève de l'intuition géniale du charlatanisme. Et donc le passage auquel vous faisiez référence, la fantaisie, justement cette intuition géniale, cette façon de procéder par à-coup, par écart, Bruno Latour, encore une fois, dans Guerre et paix des microbes, a cette phrase très belle où il dit que Pasteur a innové autant parce qu'il fait sans cesse des pas de côté, il passe des cristaux quand même aux levures et ensuite à la rage, donc c'est des énormes écarts. Et donc j'ai souvent vu autour de moi des scientifiques, chefs de laboratoire, qui parfois avaient justement des personnalités assez extravagantes et des intuitions géniales comme ça, mais qui parfois, quand on parlait avec eux, enfin en tout cas c'est leur doctorant ou leur post-doctorant, disaient: par contre, si tu regardes dans les coins les références qu'ils font, les articles, etc., ils peuvent avoir des raisonnements fallacieux. Et donc, je voulais dresser une continuité entre cette intuition géniale qui a besoin de la vérification, la répétibilité des résultats. Ensuite, une deuxième figure qui vient dans ce continuum, un Michel Peter, qui est peut-être le Didier Raoult de l'époque de Pasteur. Hein. Et enfin, à l'autre bout du spectre, les remèdes variés en tout genre, et ça, c'est pas du tout une invention de ma part. Hein. J'ai mis dans le roman, on voit un remède à l'ail, comme vous le mentionnez, mais aussi des remèdes aux fientes de chèvre, des remèdes d'homéopathie, d'hydrothérapie, etc., des remèdes en tout genre.
C'est moins pire que l'eau de Javel à Trump, mais enfin, c'est pas terrible non plus. Hein.
Non, il y a l'eau salée aussi, au Javel, eau salée. Donc c'était très étonnant de voir ces parallèles. Oui.
Mais il y a le rôle des journaux aussi à l'époque qui est très très important, parce que effectivement c'est le seul moyen d'avoir des nouvelles. Et les journaux en fait suivent presque une doctrine idéologique, suivant leur orientation politique, vont s'opposer ou se ranger derrière Pasteur. Ces journaux-là ont contribué à augmenter de façon exponentielle la polémique.
Oui, alors pour les besoins du roman, j'ai parfois un petit peu forcé les traits. En fait, en réalité, j'ai pas retrouvé de journaux d'époque qui dit Pasteur assassin. Hein. Ça, c'est vraiment une partie romanesque. Par contre, j'ai trouvé tout un tas de caricatures et j'ai trouvé des accusations qui disent Pasteur a infiltré l'agence de presse Havas. C'est impossible de le critiquer dans les journaux officiels. La vaccination est devenue une religion d'État. Et donc, c'est une idolâtrie, là, ça, pour le coup, c'est une citation vraiment d'un journal de l'époque. On parle de catéchisme vaccinal. Et donc, oui, on voit ces journaux qui sont de tous bords et qui tirent la couverture de leur côté. Et on voit justement ce glissement hein, de la question strictement scientifique vers du politique et de l'idéologique.
Et pour donc le seul moyen justement pour tirer Pasteur du mauvais pas dans lequel il est ou pour l'enfoncer, c'est l'autopsie. Et l'autopsie, alors là dans votre roman, c'est quelque chose qui apprend des choses extraordinaires. C'est par exemple la morgue de Paris, c'est un lieu de promenade pour les Parisiens qui emmènent leurs enfants voir les assassinats du week-end. On pouvait voir les gens égorgés de la nuit le matin. Et il y a un truc absolument abominable, c'est qu'on propose à la mère de Jules d'assister à l'autopsie.
Comment dire, alors cette galerie d'exposition des cadavres, elle est destinée à la fin du 18e siècle, du 19e siècle pardon, elle est destinée à exposer les corps qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été identifiés hein. Et donc on voit les là, ça c'est pas du tout une invention de ma part hein.
Ah aussi. Non.
On voit les corps et derrière les vêtements. Et d'ailleurs alors je sais plus dans quel roman mais il y a Émile Zola qui a une très belle scène aussi justement où il parle de cette galerie d'exposition, c'est peut-être dans Thérèse Raquin, mais je l'avais relu justement pendant l'écriture du livre. Donc il y a une fascination morbide, c'est le tout Paris s'y rue à la pause.
C'est le YouTube de l'époque hein.
Oui. Il y a un côté comme ça, oui, tout à fait. Les mêmes passions ville et la curiosité par rapport à ça. Et puis c'est vrai qu'il y avait il y a aussi cette esthétique du Paris ou de la fin du 19e siècle où voilà le curage des fosses sceptiques est insuffisant qu'il n'y a pas encore de raccordement tout à l'égout et ça évidemment ça fait des marais stagnants qui propagent le choléra, la diphtérie et toutes les maladies infectieuses. Donc, il y avait un côté presque jouissif à rentrer dans cette phase de l'histoire avec tous ces détails de Paris de la fin du 19e.
Et l'autopsie va prendre un temps infini. Le temps entre la mort de jeune garçon et l'autopsie qui va se faire donc en public au sein de l'Académie de médecine avec les adversaires. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui.
Alors, en réalité, non, l'autopsie, elle n'est pas en public, elle est en présence d'un certain nombre de personnes.
Il y a du monde,
personnes. Oui, il y a quand même du monde. Ouais, il y a du monde, dont il y a la présence de Clémenceau, d'ailleurs. Concernant le temps que ça a pris, en réalité, historiquement, ça a été beaucoup plus rapide.
Ah, d'accord.
A été dans les 10 jours, etc. Mais pour les besoins de la tension narrative, j'ai mis beaucoup plus de temps entre.
Ouais.
Mais en réalité, ça a été plus rapide. Je ne sais plus exactement le nombre de jours. Voilà.
Ouais, d'accord. Mais enfin, c'est le nombre de personnes qui assistaient. Moi, ça m'a toujours étonné. Et est-ce que à l'époque, est-ce qu'il y avait une communauté scientifique internationale?
Oui, bien sûr, il y avait une communauté scientifique internationale, il y a des sommets scientifiques, et d'ailleurs, Pasteur y est souvent invité. Donc, il y a déjà la mise en place de cette communauté internationale. Et donc, d'ailleurs, on le voit hein, dans le roman, la médecine de Paris est en lutte avec l'école allemande. Et donc ça, il y a aussi des querelles de priorité nationale. Cor s'est fait connaître avec la découverte du bacille de la tuberculose. Et donc il y a tout ça qui se joue évidemment.
Ah les boches, on y arrivera.
Oui, il y a.
Et c'est juste après la guerre de 70, juste avant celle de 14.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est, je le dis à un moment dans le roman, le procureur est fort inquiet de la mort de ce jeune garçon, parce que, voilà, que va dire l'opinion publique quand on n'envoie pas les enfants à la guerre? On les laisse se faire vacciner et mourir. Il y a aussi un point que j'ai pas mentionné et qui est important malgré tout. Il y a pas mal de cas à l'époque, hein, quand il y a la vaccination contre le choléra, de cas de syphilis qui en effet après rétrospectivement ont été, ça a été montré que à cause des techniques qui n'étaient pas encore au point, il y avait eu en effet contagion ouais. De la syphilis. Voilà, toujours un débat compliqué. À partir de quel moment
Et il n'est pas fini. On va souffler une deuxième fois avec oui. Education de John Foreman. Education that you can't pay for, how to get up again and try. Here's an education that you can't pay for, how to look me in the eye. Here's an education that you can't pay for, how to get back and fight. Here's an education that you can't pay for, how to say goodbye. If you haven't figured out by now, I guess the pain's gonna show you how. It goes on and on and on and on and on and on and on. You lose yourself when you love someone. You lose yourself when you love someone. You lose yourself and you come undone when you love someone. And you love someone. Yeah. Most things we're doing in this life gonna kill you in the end. Most things we're doing in this life are gonna kill you in the end. And the things we're fighting for are the things that you can't defend. Most things we're doing in this life are gonna kill me in the end. If you haven't learned that lesson yet, the scars are teachers that you're never gonna forget. It goes on and on and on and on and on and on and on. Contradiction. Breathe it in. Breathe it in. Oxygen, the tide of life and breath and death. You breathe it in. You breathe it in. You breathe it in. You breathe it in. When you love someone, you lose yourself. Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette interview avec Paola Nicola, qui est à New York, qui est l'autrice de Les Enragés, un roman à propos de la vaccination contre la rage, avec une intrigue de suspense, des personnages, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérités historiques et de documents, et qui est paru aux éditions du Globe. Donc on était en train de parler un petit peu d'éthique, parce que aussi bien du côté du docteur Michel Peter que du côté de l'équipe de Pasteur, parce que Pasteur, au moment où Jules Rouillet est malade, peu de temps après, Pasteur est malade, il est cardiaque, il est obligé de se reposer. Au niveau des deux équipes, il n'y a pas forcément un respect de l'éthique extraordinaire.
Je dirais pas exactement ça. Je dirais que, comment dire, on navigue dans des zones grises. On est dans des phases d'exploration. On est dans du pur défrichement. Donc, en effet, l'époque de Pasteur ne dispose pas des codes éthiques dont nous disposons. Donc, on a beaucoup appris. Et donc, il y a toujours, rétrospectivement, c'est beaucoup plus facile de dire, pourquoi n'ont-ils pas fait comme ça? On est dans l'inconnu. Cela dit, les questions, les différentes questions éthiques sont soulevées, bien sûr, par le laboratoire Pasteur. Donc, la première, quand est-il justifié de passer des essais de l'animal à l'homme? Donc, on le voit entre le conflit entre Roux et Granchet, Roux qui résiste et qui dit c'est trop tôt, bon. Et puis, il y a une autre question à un moment donné qui est débattue pendant l'affaire. Faut-il arrêter les essais en cours? Pas arrêter les traitements commencés parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça donnerait sur les patients, mais faut-il arrêter d'injecter de nouveaux patients? Donc, Roux est en faveur de ça. Et Granchet est contre. Et c'est toujours compliqué. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment rendre la texture et l'épaisseur de ces dilemmes moraux. C'est toujours compliqué parce que même Granchet dit à Roux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a des gens qui viennent des quatre coins de France. Ils sont mordus au visage et au cou. Dans 88% des cas, ils meurent après ça. Est-ce que vous êtes en train de dire que plutôt que de prendre le risque d'injecter le vaccin, vous préférez les abandonner? Donc il y a tout ça.
Oui, parce qu'il y a des traitements en cours. C'est ça, c'est que c'est pas un vaccin qui est fait une fois et qu'on peut arrêter. Il y a des protocoles en cours et qui durent très longtemps.
Oui. Alors, Roux et Granchet sont relativement, enfin, les personnages que j'ai imaginés sont relativement d'accord rapidement sur la question. Ils disent non, il faut pas arrêter le traitement commencé parce que on sait pas ce que ça donnerait. Par contre, encore une fois, sur la question accepter ou non de nouveaux patients, ils vont continuer à en accepter en réalité, hein. Mais c'est une question que j'ai imaginé qu'ils ont dû débattre. Donc il y a ça. Et puis il y a enfin la dernière couche de dilemmes moraux et qui est sans doute la plus compliquée, à savoir comment on fait pour balancer entre le devoir du médecin à l'égard du patient, qui est un devoir individuel, comment on fait pour balancer ça avec le devoir du chercheur à l'égard de la communauté. Et ça, c'est une question qu'on a encore aujourd'hui, hein, vous avez des médecins qui sont aussi chercheurs dans des essais cliniques, et on parle parfois de la méprise thérapeutique des patients qui acceptent de participer en phase 1 et 2, d'essais cliniques, par exemple, en oncologie. Donc comment on fait pour balancer entre les deux? J'ai pas la réponse.
Mais je sais pas si quelqu'un l'a d'ailleurs.
Je ne crois pas. Je crois que l'éthique, ça n'est pas résorber l'inconfort moral. C'est naviguer avec l'inconfort moral, vivre avec et essayer de trouver des solutions qui sont des moindres mal. Ou des moindres mots.
Là, vous disiez que c'était la dernière couche, et moi, il me semble qu'il y a une couche qui est encore supérieure et, ouais. et qui est abordée. On va surtout pas dire pourquoi dans votre livre, et ouais. parce que bah, il faut le lire. Est-ce qu'on peut mentir pour faire le bien?
Peut-on mentir pour faire le bien? Ça, c'est une vaste question qui a été emparée effectivement par toute l'histoire de la philosophie pendant des siècles et des siècles. Peut-on mentir pour faire le bien? Ou autre question, peut-on omettre la vérité pour faire le bien? Ce qui est encore un peu différent de ouais. du mensonge proprement dit. C'est une question très compliquée. D'un côté, vous avez une déontologie médicale qui serait très rigide, très stricte. Il ne faut jamais s'aventurer dans cette voie. Et puis, une position beaucoup plus pragmatique qui peut parfois paraître cynique du point de vue, en effet, des familles et des malades. Comment dire à une mère, la mort de ton enfant a permis la découverte d'un vaccin. Pour une mère, c'est perdre tout un monde. Hein. Enfin,
oui.
Cette tension entre le pragmatisme et une déontologie plus stricte. Alors, encore une fois, maintenant, nous avons des régulations, des protocoles qui permettent un encadrement. Mais dans d'autres champs que celui de la vaccination, je suis sûre que il y aura de nouveaux problèmes moraux. Bah, de toute façon,
il s'en pose. Par exemple, les masques sont inutiles. Vous saurez pas les mettre. Enfin, etc. Ce sont des choses. Et ensuite, on dit le vaccin est bon. Comment, une fois qu'on a été pris à mentir comme ça, comment est-ce qu'on peut se rattraper aussi?
Alors, c'est intéressant parce que, comment dire, c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre. Il y avait ce questionnement justement sur la réponse du gouvernement et la réponse des politiques à une crise. Et donc on voit, on en a parlé, différents partis qui tirent la couverture de leur côté. Donc ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté pendant le Covid-19, pendant les débats. Par contre, il y a quelque chose dont on a moins parlé et je pense que c'est assez important et c'est ça aussi ce livre était une tentative de rendre sensible le progrès scientifique, comment on avance et à un moment donné Granchet le dit à Roux, il le dit vous savez très bien qu'un je ne sais pas, le je ne sais pas qui pour le scientifique est le summum de l'honnêteté intellectuelle et qui au fond est un discours extrêmement rassurant. Je ne sais pas, ça veut dire je ne te mens pas et mon dévouement est à la vérité. Or ce je ne sais pas du scientifique, surtout dès qu'on rentre dans le vivant, oui. C'est d'une complexité. On travaille sur des protéines, des molécules. C'est d'une infinie complexité, ça qui dépasse. Moi, je suis pas biologiste, mais je suis mariée à un biologiste et j'ai plein d'amis biologistes et d'une complexité qui me dépasse. Et donc la difficulté le public n'aime pas entendre un je ne sais pas. Et donc je pense que il y a une nécessité de vulgariser comment la science progresse, oui. etc. Parce que je pense que peut-être que les politiques auraient été moins tentés d'utiliser des affirmations dogmatiques si justement le public pensait pas qu'un je ne sais pas est un charlatan.
Oui, et même il y a toute une éducation scientifique à refaire quand une chercheuse dit je n'ai pas trouvé, c'est déjà trouver quelque chose. C'est montrer que ça marche pas. Mais moi je voulais vous parler d'un cas que moi j'ai connu personnellement sur le rôle du politique. J'ai eu la chance de parler avec des chercheuses de l'IFREMER, deux jeunes femmes qui font un travail extraordinaire sur des algues avaleuses de CO2. Et donc qui étaient financées pour travailler sur ces algues et un politique est venu les voir Et donc, elles lui ont expliqué que les algues avalaient le CO2. Ça lui a suffi. Il n'a pas voulu en savoir plus. C'était très bien. Elles se sont aperçues deux jours plus tard qu'il disait que finalement, c'était pas trop la peine de s'affoler pour le CO2 puisqu'il y avait des algues qui les avalaient. Mais le problème, c'est qu'elles avaient besoin d'un financement parce que ces algues-là, elles avaient des effets secondaires quand on les répandait dans les océans. Mais ce qu'il fallait, c'est les financer pour qu'elles puissent aller au bout de leur recherche. Mais là, le résultat pour le politique était obtenu.
Oui.
Donc, c'est des choses qui sont complètement inconciliables.
Oui, tout à fait. Et c'est la difficulté, c'est aussi, je pense que ça tient à une différence de temporalité. En recherche fondamentale, on est dans un temps long. Par définition, le politique est dans un temps court, le médiatique est dans un temps plus court. Comment traduire ces énoncés? Comment éviter qu'ils se fassent instrumentaliser, radicaliser, caricaturer au point qu'en fait, on leur fait dire le contraire de ce qui a été dit?
Exactement.
Et vous parliez hein, de la puissance mentale hein, qu'il faut pour enlever une idée fausse hein, 6 fois plus que pour enseigner une idée vraie. C'est à mon avis un des grands défis de notre siècle quoi, avec les fake news et c'est ça qui m'intéresse en fait. Comment un discours dérive? Quelles sont les conditions? Et ce roman, c'est une première partie d'une trilogie sur la vérité et ses doubles en fait, où on voit justement d'autres figures comme ça qui sont à la frontière,
qui sont dans un équilibre délicat.
Oui, et qui dérive, parce qu'il est toujours possible de dériver, même quand on est une figure, qui fut un temps était une figure bien établie. Il est toujours possible de dériver et finir par dire n'importe quoi.
Bah, comme Pasteur, qui était idolâtré et qui avait ses financements, il avait 2 millions de francs, je crois, à l'époque. C'est une somme absolument considérable pour fonder son institut. Et ce problème-là est toujours là, est toujours présent. C'est le financement de la recherche, les relations entre les chercheurs et les laboratoires. Bon, à l'époque de Pasteur, il n'y avait pas Big Pharma. L'industrie pharmaceutique était
oui.
balbutiante, oui. Mais aujourd'hui, elle est omniprésente, elle est au cœur de scandales abominables. Ici, en Bretagne, on a le médecin qui a dénoncé Servier et son médicament qui a tué des dizaines de personnes. Et ça,
tu peux dire Irène Frachon?
Oui, Irène Frachon, docteur Irène Frachon, bien sûr, et qui a reçu des menaces de mort. Et ce problème-là, il est toujours pas traité. Comment est-ce que vous, en tant que bioéthiciste, vous voyez des solutions pour assainir les relations entre le public et le domaine de la recherche dans son ensemble?
Ça, c'est une question extrêmement, extrêmement difficile.
Vous avez 4 heures.
Je ne sais pas. Ce roman était au fond un début de lancer une invitation à lancer une réflexion générale là-dessus. Je n'ai pas la réponse, non. Je n'ai la réponse.
Bah c'est bien, ça va nous faire des romans pour l'avenir.
Par contre, oui, exactement. voilà, mais bon, alors après, la figure de Pasteur, hein, c'est pas une figure qui dérive. Hein, pour le coup, lui, il reste, il dit pas n'importe quoi, comme vraiment à certaines figures en histoire des sciences qui, après avoir un prix Nobel, bon, peuvent dériver, par exemple. Hein, y a un syndrome comme ça.
Montagnier, le professeur Montagnier qui a trouvé le HIV, qui raconte absolument n'importe quoi depuis.
Oui, et ça, c'est des figures, voilà, encore une fois, fascinantes. Et on revient à le rôle de la fantaisie. C'est sans doute des gens qui, pour obtenir un prix Nobel, ont dû avoir un certain nombre d'intuitions géniales tout au long de leur carrière. Et la difficulté, c'est comment faire au moment où ça se passe, parce qu'après coup, encore une fois, l'histoire des sciences permet de discriminer, permet de différencier le vainqueur du vaincu. Mais au moment où ça se passe, comment savoir et comment s'orienter. À un moment donné, Roux, hein, il dit hein, au fond, ce qui distingue le têtu du borné, c'est une distinction très très ténue.
De l'obstiné.
Il faut être têtu pour continuer en recherche fondamentale. Ouais. Ça ne marche pas 70% du temps si mes amis biologistes me disent ça ne marche pas. Il faut être têtu.
Mais même si ça marche pas, c'est déjà un résultat.
Non, c'est vrai, mais ça ne marche. Oui, mais oui et non, parce que si vous voulez, toutes les conditions initiales sont tellement fines, il y a tellement de variations dans les conditions. Il se peut qu'il y a peut-être un critère que vous n'avez pas pris en compte et qui vienne brouiller les résultats. Donc il faut recommencer, faire varier les conditions initiales. Et en effet, c'est une information supplémentaire. Bon voilà, condition initiale X marche pas, condition initiale Y marche pas, jusqu'à ce qu'on trouve le bon set de conditions initiales qui marche. Mais il y a un côté titanesque.
On va pas résoudre ça aujourd'hui. Mais par contre, on a beaucoup avancé. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir consacré autant de temps. Je rappelle, votre ouvrage, c'est Les Enragés de Paola Nicola aux éditions du Globe, si vous voulez tout savoir sur le vaccin Pasteur contre la rage et puis les polémiques et puis les problèmes de la recherche et de la science. Et ben, moi, je vous le conseille. Merci beaucoup, Paola Nicola.
Merci, Patrick. Merci infiniment.